à tous. Un monde d'inégalités est-il une fatalité? Avec nous, à partir de 1955, un spécialiste de la pauvreté, l'ancien chef économiste à la Banque mondiale, Branko Milanović. Il publie aujourd'hui en français Inégalité mondiale, le destin des classes moyennes, des ultra-riches et l'égalité des chances, c'est à la découverte. Il nous rejoindra donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, Vasarely, un plasticien à géométrie variable. Le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective. Vasarely, le partage des formes, première en France depuis les années 60. Avec nous deux invités pour évoquer le parcours et l'œuvre de cet artiste hongrois, si en phase avec son époque qu'il parut vite démodé après avoir profondément marqué l'imaginaire des Trente Glorieuses. À écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Je trouve absolument et 100% réussi, n'est-ce pas, cette architecture, n'est-ce pas, parce que le but n'était pas du tout de plaire aux gens de bon goût, n'est-ce pas, le but des architectes, n'est-ce pas, était de trouver un immense appareil de fonctionnement, vous voyez, qui permet, au fond, une diffusion extrêmement large. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un monument historique, n'est-ce pas, où on a voulu à tout prix faire, si vous voulez, du beau, n'est-ce pas. C'est un appareil perfectionné, n'est-ce pas, qui sera un grand succès.
Une architecture 100% réussie, une machine perfectionnée, ultra moderne. Voilà ce que Vasarely disait du Centre Pompidou en 1977. Enfin exposé dans ce lieu, il y est. Il a pris place depuis hier au Centre Pompidou à Paris. Un choix qu'il n'aurait pas renié tant il parlait donc avec bienveillance de ce lieu à son ouverture. Vasarely, le retour avec nous. Arnaud Pierre, professeur en histoire de l'art à Paris 4 Sorbonne, co-commissaire de cette exposition. Vasarely, le partage des formes, qui a ouvert hier au Centre Pompidou. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Dana, journaliste, auteur chez Kalman Levy, de Une saga dans le siècle avec Pierre Vasarely, petit-fils de l'artiste. Bonjour.
Bonjour.
Ouh là, je sens le mangeur de micro.
Du tout.
Mais si, vous avez pris la position, vous êtes sur les starting blocks. On va avoir le temps d'en profiter, de vous avoir, de pouvoir discuter de ce Vasarely que vous allez nous présenter. Comment vous avez fait sa rencontre, vous, Philippe Dana?
J'ai fait la rencontre d'abord de Pierre Vasarely, son petit-fils, par l'intermédiaire de Philippe Robinet, qui est le patron des éditions Kalman Levy. Pierre cherchait un journaliste qui pourrait raconter la vie de son grand-père, qui est une vie flamboyante puisqu'elle traverse tout le XXe siècle. Et j'ai donc fait la découverte de Victor Vasarely, l'artiste, tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Et je dois dire que cette plongée dans les utopies du XXe siècle m'a beaucoup réjoui.
Utopie dont il était porteur. Vasarely est le fondateur d'un mouvement, l'Op Art, comme Optical Art. C'était un roi de l'illusion, Arnaud Pierre.
Si vous voulez, oui, un roi de l'illusion, mais je voudrais surtout pas qu'on le ramène à cela, en fait. Le roi de l'illusion, parce qu'en effet, à partir du tout début des années 1950, il met au point une série de patterns géométriques qui s'éloignent totalement du vocabulaire fondamental de l'abstraction géométrique pour tirer celui-ci du côté, en effet, de toutes sortes de distorsions, de mouvements, d'anamorphoses, et ça fonde ce qu'on va appeler donc l'art optique et cinétique, l'optical art aux États-Unis, donc l'op art par abréviation. Mais ça ne rend pas compte de tout le projet de Vasarely, hein, qui était de traduire à travers l'abstraction un lien toujours confirmé en fait avec la réalité, mais une réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui différemment grâce aux sciences modernes. Hein. Il disait notre nature à nous, c'est la biochimie, c'est l'astrophysique et c'est le monde des particules et de la mécanique ondulatoire. Voilà.
Il piégeait la vision avec ses œuvres et aujourd'hui il a peut-être aussi piégé, sans le vouloir, une partie de sa réputation, puisqu'elle s'est concentrée sur cette partie-là de son travail. À vous donc de nous amener à le regarder autrement aujourd'hui. Il est arrivé à Paris dans les années 30, Vasarely. Après-guerre, il devient une référence de l'art abstrait. Il y a cette exposition où il va réellement percer le mouvement à la Galerie Denise. Cet alphabet plastique...
Denise René,
j'ai pas été jusqu'au bout. Cet alphabet plastique qu'il va développer dans les années 60. Je vous propose d'écouter au micro d'un certain Paul Naref ce qu'il disait en 1968.
Monsieur Vasarely, je me promène depuis un petit moment là dans cette pièce et je vois des tableaux qui sont tous plus étonnants les uns que les autres et qui appartiennent, je crois, à un style qu'on nomme le op art. Alors je voudrais que vous me disiez pour quelle raison on appelle ça le op art d'abord et pourquoi un nom anglais.
Oui, écoutez, surtout de 1952-53, n'est-ce pas, que je m'adonnais à des recherches tout à fait spéciales, n'est-ce pas, et à ce moment-là, j'appelais ces recherches des recherches cinétiques. Cinétisme veut dire tout simplement mouvement. Mouvement dans la peinture, n'est-ce pas, qui jusqu'alors était, pour ainsi dire, banni. L'idée, au bout de quelques années, a énormément plu, comment dirais-je, aux Américains, et c'est à ce moment-là qu'un manager a décidé d'appeler, comment dirais-je, cette tendance de la peinture optical art, c'est-à-dire avec abréviation op art, n'est-ce pas ? C'est devenu évidemment une affaire colossale aux États-Unis, n'est-ce pas ? Mais l'intention des Américains et les miens sont essentiellement différentes.
Définition simple, Philippe Dana, qu'est-ce que vous en retenez ?
Ah, j'adore cette archive, je l'ai beaucoup regardée parce que c'est une émission que présentait Michel Drucker, déjà, en décembre 1968. Et dans cette émission, un peu fourre-tout, de variété, il y a à la fois Gérard Manset qui vient chanter, il y a un reportage sur Vasarely qui est mené par Michel Polnareff qui va à sa rencontre. Vasarely est dans son atelier, il a sa posture habituelle, c'est-à-dire il est très grand, il a en général une cigarette allumée, il fume et il a déjà tout à fait compris comment bien utiliser les médias pour se faire connaître. Et de ce point de vue, il est à peu près comparable à son, entre guillemets, rival américain qui est Andy Warhol, qui lui aussi a tout compris à l'utilisation des médias.
Et qu'est-ce que ça nous dit déjà de la place qu'il va occuper dans la culture populaire ?
Il occupe déjà une place importante dans la culture populaire parce que vous avez parlé de l'exposition Le Mouvement qui date de 1955, mais déjà au milieu des années 60, il y a une autre exposition qui est très importante, c'est celle qui se déroule au MoMA à New York qui s'appelle Responsive Eye. Là, il y a toute l'abstraction géométrique qui est réunie avec d'ailleurs des luttes américano-européennes à l'époque, puisque même le commissaire de l'exposition va démissionner le soir même du vernissage. L'exposition est filmée, et vous savez par qui ? Par Brian De Palma, qui réalise son premier court-métrage. Et le court-métrage de De Palma, c'est l'exposition Responsive Eye à New York. Et d'ailleurs, parmi les participants, on remarque un certain David Hockney, qui à l'époque est très jeune, et qui cette année, 2018, a été l'artiste vivant le plus coté à travers le monde.
Et qu'on a eu le plaisir de rencontrer.
Il déteste ce qu'il voit, naturellement.
Évidemment. Donc ça dit que cette exposition Responsive Eye, qui suit donc le mouvement en 55 et qui précède au fond l'inauguration du centre architectonique d'Aix-en-Provence en 76, bah, elle se situe exactement au moment où Vasarely a la cote. C'est-à-dire que dans ce milieu des années 60, si on va dans les grands magasins à Paris, 15% de ce qu'on y trouve, c'est-à-dire des sets de table, des serviettes, des couverts, etc., sont signés Vasarely.
Alors, il n'avait pas besoin des musées, Vasarely, puisqu'il existait partout dans l'espace public. Vous l'évoquiez, dans les magasins de décoration, dans la mode, à la télévision et aussi dans la rue. Pourquoi, néanmoins, le Centre Pompidou a autant tardé à lui marquer de l'intérêt ? Parce qu'il était à ce point-là, entrer dans notre quotidien ?
Oui, c'est pour ça en grande partie, effectivement. L'artiste, au fond, a fait une grande partie du travail pour sa postérité lui-même. C'est-à-dire qu'il a créé également ses propres fondations, ses propres musées à Gordes, à Aix, mais également à Budapest, à Pécs, dans sa ville natale, à Budapest, également à New York. Hein, en 77, ouvre un Vasarely Center à New York. Ça le coupe évidemment de ces marchands, parce que c'est un biais introduit en fait dans l'espace marchand qui était insupportable, bien entendu. Et du côté de l'institution, quand on voit quelqu'un qui fait aussi bien le travail, pourquoi au fond se fatiguer? Alors il y a aussi le fait que ce travail s'est fait en direction du public en fait. Hein. Vasarely a voulu fonder en fait un nouvel art populaire, il y est parfaitement réussi, et je crois quand même que dans l'institution il y a non pas une forme de mépris, mais quand même un malaise, un trouble avec ce qui va saper au fond certaines des bases de l'art élitaire, de l'art savant que l'on voit, que l'on conserve, que l'on explique dans les grandes institutions.
Et si je puis compléter, du marché de l'art, puisqu'il s'affranchit d'une certaine façon des marchands d'art, y compris même de sa propre galeriste Denise René. Ça se passe à ce moment, au moment que vous décrivez, la fin des années 70.
Oui, et au moment où ouvre le Vasarely Center, mais il perd l'appui de la Pace Gallery, de Sydney, de la galerie Sydney Janis, donc les grandes galeries américaines de l'époque, hein, qui le soutenaient, qui le commercialisaient. Il vendait énormément aux États-Unis. Et là, évidemment, il fait un mal terrible au marché de l'art en ouvrant ce Vasarely Center. Ça, bien entendu, ça, on ne l'a pas. il n'a pas pardonné non plus.
Qui lui en a tenu rigueur, ce marché de l'art. Alors, il était un artiste, mais il était aussi un théoricien de l'art et un chercheur, un défricheur. Revenons juste sur cette définition, cette perception qu'il avait à la fois de l'art et du rôle de l'artiste, de sa place dans la création et dans l'époque. L'art pour l'art ne sert à rien, disait Vasarely. Il faut en parallèle gagner sa vie. Après l'école d'art appliqué, il va être publicitaire et artiste. Il est très influencé par le Bauhaus et la culture abstraite. Il veut que ses créations entrent dans la vie des gens. Il croit à la fonction sociale d'un art accessible à tous. Dès lors, Vasarely, comme on disait, n'a peut-être plus besoin des musées pour exister. Écoutez ce qu'il disait au sujet de la société de consommation et des artistes.
Je critique, si vous voulez, un prototype d'artiste, n'est-ce pas, qui est précisément la création d'une société d'abondance ou de consommation ou de profit, si vous voulez. Et cette société, au fond, a créé son type d'artiste ambitieux, voulant réussir à tout prix, très jeune, plus rapidement possible. Si ça devient par la suite une sorte de servitude absolument indispensable, parce que moi je peux passer également aux aveux d'un certain point de vue. Ce que vous voyez ici dans cet atelier, au fond, et ces œuvres, ces créations, je pourrais même dire que c'est presque un compromis de nécessité de faire des tableaux dans une société, et qui veut avoir des tableaux? Si je ne peins pas des tableaux, avec quoi voulez-vous que je construise ma fondation? Si je ne les vends pas à un élite privilégié que je dénonce dans mes notes brutes, n'est-ce pas ? Je ne veux pas le vendre aux pauvres. J'aimerais bien donner aux pauvres. D'ailleurs, c'est mon but.
Vous y entendez là, Ardo-Pierre, une forme d'autocritique ou au contraire toute la justification, le sens de sa démarche?
Il a le courage d'affronter ses propres contradictions d'une certaine façon. Alors c'est très curieux parce qu'il décrit au fond l'artiste traditionnel comme étant celui qui va coller au fond aux attentes de la société de consommation. C'est bien ça qu'il nous dit. Alors que lui, l'artiste qu'il veut dépasser ce moment en fait du tableau de chevalet pour fonder, pour créer, diffuser ce nouvel art populaire, et qui aboutit en effet à la réalisation de beaucoup d'objets de consommation, se situerait un petit peu au-dessus de ça, au-delà des contradictions de ce système. Mais disons-le tout net en fait, et Vasarely le dit ailleurs aussi brutalement que je vais peut-être le dire là, l'art ne l'intéresse pas, la peinture ne l'intéresse pas, le tableau de chevalet n'est qu'un moment, n'est qu'un point de passage vers autre chose, vers en effet une forme d'art qui va, avec de nouveaux supports, avec de moyens de production et de diffusion, rencontrer un tout autre public que l'art habituel. Donc si vous voulez, ça n'est pas une exposition de peinture que nous faisons, contrairement à ce que, par exemple, plus récemment, quelqu'un comme Martin Engler au Stadel Museum à Francfort a pu faire. Montrer Vasarely uniquement comme un peintre, c'est une contradiction, c'est ne pas voir en fait le fond du problème. Vasarely ne voulait pas rester un simple peintre, en fait, et voulait emporter l'art bien au-delà de son moment, de ce moment historique qui a été le développement de la peinture de chevalet depuis la Renaissance jusqu'à nos jours à peu près.
Et pourtant, on va revenir dans un instant sur ses influences, ce qui est aussi intéressant, mais juste, vous avez avec vous, Philippe Dana, ses notes brutes publiées chez Hermann. Est-ce qu'il a une définition? Est-ce que vous avez retrouvé parmi ses notes qui complètent ce qu'on vient d'entendre dans sa voix?
Alors, ces notes, il faut bien voir qu'elles ont été écrites sur plusieurs années, donc il y a des notes qui datent des années 40, d'autres qui datent des années 60, donc les préoccupations ne sont pas les mêmes. Je pense que le point de vue de Vasarely qui se maintient tout au long de sa vie, c'est l'art social, l'art pour tous. C'est-à-dire qu'il a, il a une forme d'utopie, mais qui est partagée par beaucoup d'autres à l'époque, qui est effectivement de faire entrer l'art dans la cité. Et il va rencontrer, lui comme d'autres, comme Fernand Léger par exemple, ou Calder, un terrain d'expérimentation qui est le travail qu'il a effectué à l'université de Caracas au Venezuela en 1955. Il est contacté par un architecte qui s'appelle Villanueva, qui porte bien son nom, et qui a cette ambition-là justement de faire venir des artistes du monde entier pour réaliser des œuvres qui vont être exposées dans l'université et donc exposées au regard de tous. Et ça, c'est le credo de Vasarely tout au long de sa vie, avec les contradictions qu'Arnaud vient de nous raconter. C'est-à-dire que Vasarely a un idéal communiste, il se dit communiste, et il le dira toute sa vie. En même temps, il est l'artiste, entre guillemets, officiel, parce que le président Georges Pompidou et son épouse Claude ont fait entrer l'art à l'Élysée, et parmi les artistes qui sont entrés à l'Élysée, il y a Vasarely. Et donc il a cette étiquette d'artiste officiel qui va être collée au-dessus de lui et qui va, je pense, pas mal le gêner parce que justement, ce n'est pas du tout ça.
Oui, mais c'est quand même très paradoxal, justement, cette étiquette d'artiste officiel, voyez. Enfin, quand même, quel artiste officiel qui n'a, au fond, jamais eu de rétrospective dans une grande institution en France, hein. Donc il y a eu, alors, il y a une douzaine d'années, hein, une exposition d'introspective qu'avait organisée Jean-Paul Hameline à la Fondation d'Aix-en-Provence. Bon, les lieux même faisaient qu'évidemment le projet était beaucoup plus modeste que celui du Centre Pompidou, mais il faut quand même le saluer. Mais en dehors de cela, si vous voulez, depuis 1963, absolument rien. Et encore en 63, ça n'était pas une rétrospective, hein, ça se passait au Musée des Arts Décoratifs. C'était une exposition qui déployait tout le vocabulaire de ce que Vasarely a appelé son alphabet plastique. Donc c'était centré sur un moment, le moment en fait en 63 de où en était arrivé Vasarely. Et depuis, plus rien. Alors bien sûr, il y a la proximité avec Pompidou, il y a la commande du portrait qui trône dès l'ouverture dans l'entrée du Centre Pompidou en 77. Mais au fond, pour un artiste officiel, il a été quand même assez peu, assez maltraité au fond par l'institution. On connaît des artistes qui ont déjà eu au moins deux rétrospectives, par exemple, rien qu'au Centre Pompidou.
Mais Philippe Dana, quand il dit « je ne peux pas les vendre aux pauvres, mes tableaux, mes œuvres, mais j'aimerais bien donner aux pauvres », il avait ce côté Robin des Bois dans la vie. Comment ça se traduisait? C'est-à-dire, est-ce que quand il dit donner aux pauvres, c'est cette idée de mettre l'art à la portée de regard de tous, ou est-ce qu'il redistribuait effectivement une partie des revenus de sa création?
Bon, alors sur le plan anecdotique, Pierre, son petit-fils, le raconte d'ailleurs. Le facteur qui venait à Annay-sur-Marne pour livrer des recommandés les répartissait sur plusieurs jours parce que Vasarely avait l'habitude de distribuer un bifton de 500 balles à chaque fois qu'un recommandé arrivait. Donc il était extrêmement dispendieux, c'est qu'il dépensait beaucoup, il gagnait énormément d'argent, il a gagné énormément d'argent.
Alors, comme Gainsbourg un peu, il avait ça.
Mais il avait
Il
donnait et il donnait par ses œuvres d'art, c'est-à-dire que tous les travaux qu'il a menés. J'ai parlé de Caracas, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont ici en France.
Citons la gare Montparnasse.
La gare Montparnasse, ou encore le peut-être que l'œuvre la plus emblématique et la plus connue, c'est celle qui ornait jusqu'à l'an dernier la façade d'une station de radio bien connue qui est RTL. La
fou,
façade
hein.
du bâtiment d'RTL rue Bayard, c'est Vasarely. Et elle raconte finalement tout de ce que sont ces années un peu d'utopie.
Et le
ces
logo années... de Renault, même s'il a changé et depuis. Parce
un des concepteurs
aussi,
du logo de Renault, mais ça montre bien l'époque de ces années 70 finalement. De cette France assez joyeuse, c'était la France d'avant la crise du pétrole, la France qui se mobilise pour inaugurer une façade artistique signée Vasarely un soir de janvier 72 avec un mélange du Grand Magic Circus et en même temps de Joe Dassin et Claude François. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé parce que Vasarely est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
En fait, il était une mythologie à lui tout seul.
Bien sûr.
Une mythologie qui est celle des Trente Glorieuses en fait. Il a voulu complètement, il a complètement adhéré à ce moment des Trente Glorieuse, à ce moment d'utopie, à tout ce que vient de dire Philippe Dana, on peut ajouter par exemple la fascination pour la cybernétique, que nous appelons l'informatique aujourd'hui, mais toute son œuvre est habitée par cette espèce de pensée cybernétique, à savoir que le tableau se résume à un nombre d'éléments permutables, computables en fait, hein, et l'idée c'est de réaliser des œuvres d'art grâce à l'imagination artificielle, à l'intelligence artificielle. Il va assez loin.
Hein, précurseur dans... hein, quand même,
oui,
parce
tout à fait.
L'alphabet plastique
C'est bien
avant le développement.
Alors tout à fait. En fait, c'est un art pré-digital d'une certaine manière. On voit des surfaces qui sont des surfaces en réalité pixelisées. Tout ça fascine d'ailleurs aujourd'hui les tenants des cultures numériques aujourd'hui qui voient en Vasarely leur précurseur, qui voient en ces tableaux des incunables finalement de l'art numérique. Mais Vasarely a travaillé effectivement pendant un an entre 68-69 avec IBM par exemple. IBM n'a jeté le gant que parce que ça lui coûtait trop cher et que la machine qu'ils allaient construire serait trop vite obsolète. obsolète, mais voilà, ils avaient commencé à travailler sur un ordinateur qui serait capable de combiner à l'infini les éléments de l'alphabet plastique de Vasarely et qui permettrait aussi de le visualiser sur un écran où l'on aurait vu défiler comme cela à l'infini des combinaisons variées des tableaux de Vasarely à partir donc toujours voilà des mêmes éléments, de ces unités plastiques comme il les appelait.
Alors pour comprendre l'étendue de son œuvre, puisque c'est aussi ce que vous cherchez à faire actuellement au Centre Pompidou à Arnaud-Pierre avec cette vaste rétrospective qui lui est consacrée, Vasarely, le partage des formes qui s'est ouverte hier, c'est intéressant de se plonger aussi dans ses influences, écouter dans la voix du maître.
J'avais mes maîtres, de tout jeune garçon bien entendu, j'aimais pêle-mêle les peintres de la Renaissance, les néoclassiques bien entendu, les impressionnistes. Et puis j'ai déclaré une fois pour toujours, mes maîtres sont Cézanne d'abord, avant tout. Ensuite, plus tard, Mondrian, le Hollandais, Malevitch, le Russe, Fernand Léger, en tant que peintre cubiste, abstractisant. Pendant une toute courte période, j'admirais Picasso. Après, je me suis détourné de lui. Et c'est plutôt vers Matisse, vers ses collages, n'est-ce pas, que je me suis tourné à un moment donné, quand j'étais encore artiste à la manière, si vous voulez, ancienne du terme, de la terminologie.
Artiste à la manière ancienne.
Ouais. Philippe Dana, c'est vrai que c'est quand même, ça semble, ses références, ses influences sont toutes très classiques.
Cézanne, c'est l'enfant d'Aix-en-Provence. C'est pas un hasard si la fondation Vasarely se trouve justement à Aix-en-Provence. Il y a une autre influence qu'il n'a pas citée, mais qui est très importante. C'est un monsieur qui s'appelle Sándor Bortnik, qui a été son maître au Mühl à Budapest. Le Mühl, c'est une émanation hongroise du Bauhaus que vous avez cité en ouverture tout à l'heure, Olivia. Et le Bauhaus, c'est là encore un exemple frappant des utopies de cette période des années 30, au moment où on se dit que l'art doit descendre dans la cité, dans la ville, ouais, dans la cité, et que doivent travailler ensemble des architectes, des plasticiens, des peintres, des artistes, pour justement faire du beau. Et il y a dans le Bauhaus, et donc dans le Mühl, qui est l'école de Vasarely, quelque chose de ces utopies des années 30.
Oui, bien sûr. En fait, l'extrait oublie en effet tout un pan des influences de Vasarely, qui sont au fond ces influences-là, celles des avant-gardes d'Europe centrale, celles du constructivisme en particulier. Ce sont des influences non seulement formelles, mais idéologiques. Hein. C'est de là que vient effectivement l'idée d'un art pour tous, de l'art social, de la rencontre entre l'art et la vie. Et lui s'est désolé, en réalité, en arrivant en France dans les années 1930, de constater que ses amis artistes à Montparnasse ne parlaient que de Braque, de Picasso, de Matisse, et qu'ils ignoraient le début de tout sur Malevitch, sur Lissitzky, sur le Bauhaus, qui était complètement ignoré. J'ai sous les yeux justement une œuvre séminale, à mon avis, de Vasarely, qui porte le titre d'Hommage à Malevitch. Alors c'est un tableau qui compose des carrés, hein, l'absolu malevitchien, noir et blanc, mais ces carrés se mettent à tourner en fait et deviennent des losanges. Et donc là, on est dans cette œuvre du milieu des années 50, au tout début de la géométrie transformiste de Vasarely, qui emporte au fond le vocabulaire classique de l'abstraction géométrique vers quelque chose de presque maniériste au fond, hein, et qui fait avec le vocabulaire classique de l'abstraction géométrique ce que un Pontormo par exemple a fait avec le classicisme de Raphaël, hein, c'est-à-dire voilà, on va plus loin, on emporte les choses dans une espèce de grande vague transformiste perpétuelle.
Alors est-ce qu'il a toujours fait des belles choses, Victor Vasarely, la galeriste Denise René qu'on citait en ouverture de l'émission et qu'il va rencontrer au Café de Flore, qui va l'exposer dès 1945-46 et avec qui il va fonder ensuite le 124, une salle d'exposition parisienne, raconte qu'il n'a pas toujours emprunté la bonne route, qu'il reconnaît lui-même parfois s'être trompé. Écoutez.
C'est la rencontre qui a déclenché même pour lui sa vocation et pour moi la mienne, enfin mon orientation. Vasarely avait déjà travaillé, mais il n'était ni peintre, ni entre guillemets artiste. Il était publicitaire. Il avait l'intention de créer à Paris une sorte d'école supérieure d'arts appliqués, comme le Bauhaus. Et donc, c'est cette idée qui a été au départ de l'ouverture de la galerie.
Entre nous, on peut tout se dire. Un ami écrivain un jour m'a montré une toile de Vasarely qui n'était pas autre chose qu'une toile assez impressionniste.
Impressionniste. Mais il a fait des fausses routes, ce qu'il a appelé lui-même fausses routes. En 1946, il a peint sa période noir et blanc, qu'il a appelé noir et blanc. C'est figuratif. C'est très empâté, c'est très. Enfin, c'est indéfendable. Parce que même dans ses recherches publicitaires anciennes, il y avait beaucoup plus d'intérêt et de qualité que dans cette période de soi-disant artistique, d'art, sa peinture.
Mais Arnaud Pierre, co-commissaire de l'exposition Vasarely, le partage des formes, vous êtes là pour défendre l'indéfendable.
Oui, mais enfin justement, c'est une partie de l'œuvre que nous ne montrons pas, ouais. Sur laquelle nous avons eu une impasse. Bon, d'ailleurs, Vasarely appelait ça ses fausses routes. Ouais. Alors, il y a effectivement de très beaux tableaux dont on dit aussi parfois qu'ils ont certains sujets un peu politiques. Il y a un prisonnier, par exemple, de 46, un très très beau tableau, en effet. Mais vous savez, au fond, on n'a pas besoin d'avoir des sujets politiques dans un tableau pour faire de l'art politique. Hein. Tout l'art de Vasarely assume, au fond, une posture politique. Hein. L'idée de l'art social et ce qu'il fait avec l'art plastique, avec l'alphabet plastique dans les années 60, c'est de l'art politique. Hein. Ce n'est pas autre chose. C'est une posture totalement revendiquée qui a une résonance politique et sociale.
Philippe Dana, présent jusqu'à la saturation Vasarely dans les années 60-70, il en a payé le prix, on l'évoquait, en disparaissant par la suite, ringardisé par les décennies qui ont suivi. Alors aujourd'hui, il y a à la fois une tentative de réhabilitation, ce que vous évoquiez à l'instant au Centre Pompidou, en exposant enfin la totalité de son œuvre, Arnaud Pierre. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut revenir à la mode? Ou est-ce qu'il est quand même... même si on comprend qui était exactement cet artiste, éternellement attaché, ancré dans son époque.
Écoutez, Olivia, je ne suis pas expert en mode artistique, mais je pense qu'effectivement, il est fort possible que Vasarely revienne, comme vous le dites, à la mode, parce qu'il a connu une éclipse qui a été beaucoup trop longue et totalement injustifiée au regard de l'œuvre qu'il a produite. Et d'ailleurs, il y a eu une vente chez Sotheby's il y a à peine quelques semaines, et le tableau a été vendu très rapidement et à une cote plutôt élevée, là où sa cote avait plutôt stagné depuis 20 ou 30 ans. Donc il est très probable que Vasarely, et avec lui l'art optique, Optical Arts, revienne à la mode.
Vasarely manifestement imprègne toujours non seulement la rétine mais l'imaginaire de nos contemporains, et d'ailleurs on le voit avec l'espèce le succès déjà en fait hein, de très très surprenant de l'exposition, de ce qu'elle suscite. Je crois en effet que il y a quelque chose qui subsistait dans la mémoire des gens et qu'ils sont pressés d'aller découvrir.
Arnaud Pierre, merci beaucoup. Vasarely, le partage des formes est donc à voir au Centre Pompidou. Grande rétrospective qui lui est ouverte. C'est jusqu'à quand?
Jusqu'au 6 mai.
Jusqu'au 6 mai. Grand merci à vous aussi, Philippe Dana. Je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Pierre Vasarely, le petit-fils de l'artiste de Vasarely, une saga dans le siècle, paru chez Kalman Levy. Merci à tous les deux.
Merci, Olivia.
Merci.